Langue de
France. Une émission féministe sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
En fait, ce qui nous a réunis, c'est ce désir commun de faire avec d'autres, en fait. Trouver d'autres femmes qui ont ce même désir.
Langue de fronde.
Langue de fronde. Une émission féministe sur 106.3 FM, Fréquence Paris Pluriel. Tous les deuxièmes lundis du mois de 18h à 19h et en rediffusion tous les troisièmes jeudis du mois de 7h à 8h.
Vous savez, François, j'aurais une petite confidence à leur faire.
On est bien sur Langue de fronde. Parler du chez-soi, de ce que nos maisons représentent dans nos vies, de ce qu'elles rendent possible, de nos aspirations en matière d'habitat. Quand ce sujet ne semble pas dénué du moindre intérêt, il suscite une certaine défiance. Comme si le simple fait de s'en préoccuper nous menaçait d'un embourgeoisement fatal. On insiste, à raison, ô combien, sur la nécessité de se réapproprier l'espace public. Mais on l'oppose de façon simpliste à un univers domestique qui, dans l'esprit de beaucoup, ne fait naître que des images peu glorieuses de replis frileux, d'avachissement devant la télévision en pantoufles Mickey, d'accumulation compulsive d'appareils électroménagers et d'indifférence résolue au monde. Le logement se réduirait soit à une simple contingence, un problème pratique à régler, soit à un piège ouaté et castrateur. Or, dans une époque aussi dure et désorientée, il me semble au contraire qu'il peut y avoir du sens à repartir de nos conditions concrètes d'existence, à repartir de ces actions et de ces plaisirs élémentaires qui nous maintiennent en contact avec notre énergie vitale. Traîner, dormir, rêvasser, lire, réfléchir, créer, jouer, jouir de sa solitude ou de la compagnie de ses proches, jouir tout court, préparer et manger des plats que l'on aime. À l'écart d'un univers social saturé d'impuissance, de simulacres et d'animosité, parfois de violence, dans un monde à l'horizon bouché, la maison dessert l'étau. Elle permet de respirer, de se laisser exister, d'explorer ses désirs.
Au départ, il y avait mon envie absolue de défendre ces plages de temps où on n'est plus là pour personne, dont j'ai pour ma part un besoin absolu, ce qui suscite l'incompréhension ou la désapprobation de mon entourage.
Les plus brûlants auxquels nous sommes confrontés, avec la hausse des prix vertigineuse qui s'est produite au cours des 15 dernières années, la quête d'un logement est devenue une entreprise qui expose la majeure partie de la population à la violence des inégalités et des rapports de domination. La difficulté de se loger ou de se loger correctement, que chacun tente de déjouer comme il peut, entrave, contraint et exténue des millions d'existences. On reste rêveur en imaginant à quoi ressembleraient nos vies si l'espace était une denrée abondante et accessible, y compris dans les grandes villes.
Impossible par ailleurs de ne pas voir dans une habitation le lieu d'un rapport de force féroce, celui qu'engendre la simple nécessité de l'entretenir. Considérant le ménage comme une tâche indigne et ingrate, on le délègue aux catégories dominées, sans trop se soucier des conditions d'existence auxquelles cette spécialisation les condamne. Plus largement, l'image d'une féminité vouée à l'animation de l'univers domestique, seul lieu possible de son plein épanouissement, conserve une prégnance et une capacité de renouvellement remarquables. Elle contribue à la perpétuation du modèle de la famille nucléaire comme seul type de ménage normal et souhaitable, alors même que les modes de vie évoluent et qu'à peu d'audace peut suffire à en forger de nouveaux.
C'est pas possible, un petit enfant dans un studio.
On est avec Judith ce soir sur Langue de fronde et on va poursuivre la lecture. Vas-y, Gap.
Oui. Il restait cependant encore à parler du chez-soi dans sa dimension spatiale, matérielle. À tout âge, de nombreux êtres humains semblent éprouver le besoin de jouer avec des représentations d'habitation idéale, de se projeter dans des espaces imaginaires. Nos rêves de maison portent l'affirmation envers et contre tout d'une confiance en l'avenir. Ils affirment toujours la possibilité d'une refondation du monde.
Donc voilà, on vient de vous partager des extraits de l'introduction du livre de Mona Chollet, Chez soi. Alors on ne reparlera pas forcément du livre dans cette émission, mais l'autrice aborde plusieurs enjeux dans le livre qu'on a trouvé intéressants, qui nous ont touchés et interpellés, en particulier le fait de s'intéresser à cet endroit de vie, le chez soi, et de ce qu'il implique. Pour cette émission, comme souvent, on est parti d'un mot, d'un thème, qui est bien trop grand pour tenir en une heure. Alors cette fois-ci, grand luxe, on s'est donné le droit de faire un deuxième épisode sur le thème « habiter ». On a eu envie de faire une émission sur ce mot-là, « habiter », pour essayer d'en dessiner les contours, de voir quel sens chacune de nous y mettait derrière, essayer de comprendre aussi ce que ça veut dire le « chez soi », habiter un lieu, en ville ou à la campagne, puis aussi nouer des liens avec les lieux, qu'est-ce que ça veut dire dans une perspective féministe. Qu'est-ce que ça veut dire encore d'habiter quelque part? Quel lien nous accroche aux personnes avec qui nous vivons? Comment construire des façons d'habiter, de cohabiter aussi, qui soient soutenables, désirables, émancipatrices? Comment rendre nos dedans et nos dehors plus habitables? Pour ce second épisode, on vous proposera d'écouter des extraits de témoignages sur ce qui fait qu'un lieu devient un chez-nous, sur ce que ça implique aussi de vivre en colocation. Ensuite, on écoutera la présentation du clip par Sido, que Fabien a interviewé. Et puis, comme tous les mois, on terminera l'émission avec la chronique « J'ai des corps à vous dire ». Alors, pour cette émission, on est assez nombreuses en studio. Il y a Théo.
Salut.
Gab.
Salut.
Fabia.
Salut.
Et Léa.
Salut. Et puis, en technique, il y a Judith qui a rejoint la technique avec Clarisse et Chloé. Voilà. Alors, est-ce que tu veux dire un mot avant qu'on lance les témoignages que tu as enregistrés, Théo ?
Vous allez entendre un montage donc, de 5 entretiens, entretiens que j'ai conduits auprès des personnes de mon entourage. Je vous laisse les découvrir.
Alors, je m'appelle Johanna. On s'est connus à travers nos enfants qui vont à la crèche ensemble. Voilà, j'ai acheté une maison. On a acheté avec mon compagnon une maison. Et je suis tombée enceinte au moment où on a trouvé cette maison qu'on cherchait depuis un an. Donc finalement, le projet de maison était très concomitant du projet d'enfant. Et je pense que c'est pas du tout anodin comme mécanisme. Et voilà, donc on a acheté cette maison ici parce que on a suivi une trajectoire presque un peu caricaturale. On vivait à Paris, on se concevait pas d'avoir un enfant dans un appartement. Et du coup, on a cherché un endroit où on pouvait acheter avec les moyens qu'on avait une maison qui nous ressemble et surtout qu'on puisse investir vraiment. Je concevais pas, par exemple, d'acheter un truc neuf, que ce soit un appart ou n'importe quoi. On avait ce truc à la vieille baraque qu'il fallait qu'on retape et qu'on... Voilà. Pour moi, c'est... L'habitat, il se construit, on le construit soi-même en fait. Je pourrais pas acheter un truc ou être dans quelque chose qui est neuf, un peu clé en main, ça serait pas possible. Voilà, donc on a acheté cette maison. C'était vraiment une maison d'une petite grand-mère qui vivait là, qui a vécu toute sa vie ici. Et qu'on a complètement retapé en fait. Mais cette notion de faire un lieu à son image aussi est hyper importante.
Est-ce que tu t'y sens bien ?
Je m'y sens extrêmement bien. À tel point que par moments, c'est presque un peu une enclave pour moi. Ce qui n'est pas tellement dans mon caractère, j'ai besoin de sortir. Mais on s'y sent très bien. Mais parce qu'on l'a faite aussi. Voilà, on l'a investi très vite, très tôt. Sur le plan de l'intimité, je m'y sens très bien. Maintenant, c'est aussi un peu une chaîne. C'est-à-dire qu'on s'est aussi endetté beaucoup. On se disait que c'était aussi un investissement financier. Et au final, ça nous coûte pas mal dans notre quotidien. Donc il y a des choses qu'on fait moins parce qu'à cause de cette maison. Et donc aujourd'hui, on est dans une réflexion qui est tout à fait autre. On se dit qu'il faudrait qu'on arrive à rompre cette chaîne-là. Et on se disait que ce serait facile. Ok, on achète une maison, on a un peu d'argent, on peut investir. Ce sera un tremplin, on pourra... Voilà. Et en fait, cette chaîne à couper, c'est pas si évident. Mmh. Non, c'est une chaîne parce que ça nous coûte de l'argent et de l'énergie parce qu'on a toujours envie de faire des choses. Là, on casse le deuxième étage, voilà. Donc, c'est un peu... Mais il y a un truc un peu maso, quoi. On s'est un peu mis dans un... Finalement, c'est fou, ce truc de... On habite un lieu autant que le lieu nous habite, quand même, beaucoup. finit par aussi nous manger un peu. Voilà, et on se disait que ce serait simple, que le jour où on en a ras-le-bol, on vend et puis on se casse et on fait autre chose. Mais en fait, c'est pas si simple, parce qu'on s'attache beaucoup à son lieu de vie. Voilà, parce qu'Alice, du coup, c'est ce lieu qu'elle connaît, parce qu'on y est bien. Voilà. En fait, moi, je suis pas trop un animal social. Pour moi, l'habitat, c'est vraiment le cocon, le nid, le repère, l'ancrage, la possibilité de se couper un peu du monde. J'ai vécu 10 ans en coloc, de mes 20 à mes 30 ans. Avec Amaury, on a vécu à New York dans un tout petit appart. On a dormi dans un lit d'un mètre vingt tous les deux longtemps et on était hyper heureux. Hein. C'est la plus... Comme quoi, la forme n'a pas beaucoup d'importance. C'est les plus belles années de ma vie. Mais par contre, pour moi, l'habitat, du coup, peut-être aussi parce que j'ai une expérience de longtemps de coloc et d'habitat en coloc et que j'ai adoré, aujourd'hui, pour moi, l'habitat, c'est plus la capacité à se recentrer et à se couper du monde. Mais je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on vive en région parisienne. Et certainement que si on vivait ailleurs, en dehors de cette fourmilière, j'aurais moins ce besoin-là.
Je m'appelle Nicole, et puis et bien, on habite ensemble, hein, dans la même maison. Moi, je suis arrivée ici parce que je fuyais la densité humaine et physique du quartier de Paris où j'habitais. J'avais envie de vert et je me suis laissé séduire par cette banlieue, cette maison, parce qu'elle d'abord était facile d'accès dans les transports, donc j'avais pas l'impression de quitter mon monde qui était Paris, de le quitter définitivement, mettre juste un tout petit peu plus de distance. Et puis l'autre chose, cette maison, au moment où on l'a achetée, elle débouchait sur un... Enfin, elle donnait sur un espace vert qui était tout à fait séduisant, qui était en fait une conjonction des jardins privés. Et ça donnait un sentiment d'aération. On avait l'impression d'être quasiment dans un coin de campagne. Alors évidemment, ça nous a séduit et on n'a pas cherché beaucoup, beaucoup plus loin. Mais ensuite, l'idée était relativement claire. Donc bon, je l'ai acheté avec mon compagnon, mais... on savait plus ou moins confusément, enfin moi c'était déjà un peu clair que je ne voulais pas habiter seul avec lui. Enfin en fait à l'origine on habitait séparément. Et cette maison nous a semblé au moment où on l'a achetée pouvoir s'adapter, être proposée à d'autres personnes. En fait il s'est avéré avec le temps qu'il fallait agrandir cette maison pour que ce soit vraiment possible. Et c'est ce qu'on a fait, avec beaucoup de doutes. Hein, on a quand même attendu quelque chose comme 3-4 ans avant de se lancer là-dedans. Mais c'est ce qu'on a fait. La maison s'est agrandie et maintenant nous habitons à 5, plus une enfant. Et moi, je m'y sens bien, personnellement. Je pense que le fait qu'on ait un peu de possibilité de s'isoler de la vie commune, c'est très important. Mais en même temps, la présence d'échanges immédiats à travers le fait de partager les mêmes espaces communs, de partager des repas... prendre des décisions en commun, moi je trouve ça très, très... Ça me convient très bien. Et je regrette même, d'une certaine manière, d'avoir vécu seul pendant si longtemps. Voilà, parce que je ne suis plus tout à fait jeune.
Mon prénom c'est Aude. Présentement j'habite un appartement de 3 pièces. Dans lequel j'ai ma propre chambre, ce qui n'a pas toujours été le cas, et donc c'est notable et agréable. Je le partage avec une personne plutôt un petit peu discrète et en même temps quelqu'un qui où le quotidien est assez simple, assez facile. On partage des moments, pour autant c'est pas très, on n'a pas établi beaucoup de règles de vie communes. Et pour autant, voilà, on a cette complicité-là du quotidien qui est assez agréable. Et on a un grand salon, assez lumineux, avec plein de plantes vertes. Peut-être que je ne l'investis pas autant que des appartements ou des habitats qui sont plus collectifs. Et en même temps, ça me va bien, puisque par ailleurs, j'ai l'impression de, en dehors de cet appartement, pouvoir investir beaucoup de lieux, d'espaces, de collectifs, de groupes. Et du coup, c'est plutôt un espace un peu de repli, quoi. Et par ailleurs, pardon, ça reste un espace où je me sens libre aussi, quand je dis que j'habite néanmoins cet endroit, même si différemment d'il y a 5 ans ou 6 ans, c'est un espace où je me sens libre d'inviter des gens et d'y faire des choses et de partager, que ce soit des moments très simples où quelqu'un vient boire un thé ou prendre un déjeuner, un dîner, un petit déj, etc. Ça a été un endroit où c'est facile aussi de proposer de faire des répétitions, des réunions. Enfin voilà, c'est un espace où moi je me sens libre d'accueillir des gens, et pour moi c'est important dans le lieu où j'habite de me sentir libre de pouvoir faire ça sans déranger. Après voilà, il y a toujours une question de la mesure, mais en tout cas je me sens vraiment tranquille de le faire dans cet espace. Je pense que par ailleurs, par le passé par exemple, on a habité à beaucoup plus nombreuses dans cet appartement. On a été 4 par exemple dans le même espace, on partageait des chambres. J'ai un lit en mezzanine et puis mon ami avait un lit en dessous, et donc on partageait la même chambre. Et c'est vrai que ça fait un autre rapport à l'espace. On est plus en train de discuter aussi quels sont les moments qu'on a besoin d'avoir toute seule, quels sont les moments où c'est chouette si l'autre peut prendre un peu l'air, ou au contraire où il n'y a pas de souci, c'est bien, tranquille, c'est tranquille si on est ensemble. Voilà. Alors que là, le fait d'avoir une chambre à soi, c'est, on négocie moins cet espace-là, ou en tout cas pas de la même manière, et ça c'est quand même un vrai luxe.
Alors, je m'appelle Christiane, ou Grip. Je suis autrichienne et je connais Théo, d'une amie qu'on a en commun. Maintenant, on vit ensemble, dans la même coloc. Après la maison, j'aime bien parce qu'on a un grand jardin, une grande terrasse. Aussi, la maison, comme maison, c'est très grande. Et j'aime bien avoir la place, même à Paris, quoi. Je sais pas ce que j'ai entendu avant. Et aussi, j'aime bien ma chambre. C'est beaucoup de lumière. J'ai eu très peur d'avoir pas de lumière quand je suis venue à Paris. Et oui, bien sûr, aussi dans la maison, la relation entre les gens, tous les colocataires sont très gentils. J'aime bien comment on vit ensemble. Parce que on a un peu la côté de je sais pas comment dire, communauté. On mange ensemble, on parle et on fait des trucs ensemble. Mais aussi tout le monde peut faire ce qu'il veut et on n'a pas beaucoup d'obligations, quoi. Ça j'aime bien.
Je m'appelle Wisseline, je suis ta coloc et j'habite à Noisy-le-Sec, dans une maison avec plusieurs personnes. Enfin, moi je suis dans une chambre. Voilà, quand j'étais petite, oui, je me sentais chez moi, mais j'habitais chez mes parents. Et j'habitais dans une grande, c'était une très très grande maison. Il y avait beaucoup de chambres, il y avait salon, cuisine. Bon, les pièces étaient assez grandes. Et j'avais ma chambre, et puis bon, j'aimais toutes les pièces, il n'y avait pas de pièces que j'aimais pas. À partir de l'âge de 8 ans, 8-9 ans, du coup, je me sentais plus à ma place. Ouais, après j'ai déménagé, j'habitais plus avec mes parents, j'habitais avec la famille, avec des tantes, donc c'était un peu compliqué, je me sentais pas à ma place. C'était pas pareil qu'à la maison. Parce que moi, j'étais la seule fille à la maison, j'étais un peu la princesse. Bah après, quand on découvre qu'on ne l'est plus, c'est compliqué.
Quels sont les éléments qui font que tu te sentais bien chez toi?
Je pense que c'était tout, en fait. C'était tout. On était avec les parents, on était bien. Je pense pas que c'est pas le lieu qui compte. Enfin, je sais pas trop.
T'arriveras à faire ressortir des éléments qui font que tu te sentes bien chez toi?
Alors, si on parle de chez moi, mon appartement, je pense qu'il y a En journée, la lumière. Ça me fait me sentir bien, je trouve ça très agréable. Je pense que c'est un espace où je me sens... un espace serein. Et c'est assez important, je trouve, d'avoir des... notamment un endroit où on peut revenir en toute sérénité. Et c'est ce qui me fait, je pense, pouvoir dire que j'habite vraiment cet appartement. De manière générale, c'est un espace qui est pas... il y a beaucoup, il y a quand même, c'est un espace qui est relativement meublé et tout, mais il y a pas trop, enfin il y a pas trop encombré en tout cas. Il y a une veille collective à ce que les espaces puissent être, on puisse se les approprier quand on en a besoin, et ça c'est agréable. C'est agréable avec la personne avec qui j'habite en l'occurrence. Il y a pas du tout de ni de conflit, ni d'ambiguïté, ni de difficulté, ni de quoi que ce soit, et ça fait partie, je trouve, d'un luxe précieux dans un lieu qu'on a au quotidien, quoi, qui est notre lieu d'habitation.
Il y a des éléments physiques qui sont extrêmement importants. Enfin, je veux dire, par exemple, la lumière chez soi, c'est quand même... pour moi, c'est essentiel. Le fait d'avoir accès à l'extérieur, soit dans un jardin, soit sur une terrasse, quoi. Je pense que ça change beaucoup la vie, hein, par rapport au fait d'être toujours dans un espace fermé. Puis après, bon, après il y a l'aspect humain, quoi. Je veux dire, comment tu te sens avec les personnes avec qui tu vis. C'est sûr que la vie en commun, elle nous a posé des problèmes à certains moments. Bon, beaucoup moins aujourd'hui, mais on a eu des épisodes un peu compliqués. Mais là encore, quoi, quand il y a des possibilités de retrait dans son propre espace, ça limite beaucoup les difficultés, quoi.
Dans une colocation, je trouve que c'est vraiment que tout le monde prend ses responsabilités un peu et laisse pas tous les trucs pour les autres. Ça, j'aimerais pas du tout.
J'ai l'impression qu'à partir du moment où j'ai la possibilité que ce lieu d'habitat, ce soit qu'il me ressemble, que je puisse y mettre tous mes livres, ça c'est un truc un peu important aussi. Je suis pas sûre que la forme ait tant d'importance. Ça pourrait être une caravane, tant que je peux un peu l'investir de ce que j'aime, y mettre mes bouquins au moins un peu, qu'on puisse y vivre tous les trois dans notre nid. Je suis pas sûre que finalement l'enveloppe ait tant d'importance. Mais là, il faut peut-être que je m'interroge aussi.
Vous êtes sur FPP 106.3 FM dans notre émission Langue de Fronde et vous venez donc d'entendre un montage de 5 entretiens avec donc Wisseline, Nicole, Johanna, Crépe et Aude, que je remercie immensément de m'avoir accordé leur temps et leur confiance.
Alors pour introduire une petite discussion à propos de toutes ces choses qu'elles nous ont confiées concernant leur manière d'habiter, on peut commencer par juste un petit court extrait à nouveau de Mona Chollet qui parle de la question de s'affranchir du regard. Avoir un espace à soi, chez soi, c'est aussi pouvoir s'affranchir du regard. Aimer rester chez soi, c'est se singulariser, faire défection. C'est s'affranchir du regard et du contrôle social. Cette dérobade continue de susciter, y compris chez des gens plutôt ouverts d'esprit, une inquiétude obscure, une contrariété instinctive. Prendre plaisir à se calfeutrer pour plonger son nez dans un livre expose à une réprobation particulière. Tout lecteur, passé et présent, a entendu un jour l'injonction « Arrête de lire, sors, vis ». Alors, voilà, donc c'était juste pour resituer un petit peu ces questions d'habitat qui sont aussi des questions d'alternance entre une vie sociale dense à l'extérieur par rapport à laquelle habiter, avoir une maison, constitue une forme de refuge, Alors on a un petit peu dans ces entretiens l'image d'Épinal, du logement comme un cocon. Alors avec un certain nombre d'éléments qui ont l'air particulièrement caractéristiques de ce qu'on y cherche, de la lumière, de l'espace, éventuellement de la verdure à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on remarque que cette image d'Épinal, elle a quand même aussi irruption de l'enfant. Elle a quand même aussi un revers, hein, à savoir une espèce de dimension un petit peu masochiste, hein, du rapport à l'habitat, comme le dit l'une des personnes interrogées pour avoir cette maison, il faut en chier, il faut se priver, il faut y passer du temps à la retaper. Il y a aussi une dimension aliénante en fait de cette maison qui finalement va faire que pour l'avoir, pour la garder, on se prive. Qu'elle nous donne aussi des racines dans un endroit qu'on n'a pas forcément tant que ça choisi, mais dont on aura du mal à partir.
Oui, alors moi, dans ces témoignages, avant tout, en fait, il y a eu à plusieurs moments où je me suis assez retrouvée. Je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai, notamment au niveau de la vie collective, en collectif, parce qu'il faut dire qu'il y a trois de ces personnes du coup, avec lesquelles j'habite, et une autre personne qui vit, donc autre, qui vit aussi en collectif. Et c'est vrai que ça m'a rappelé, en tout cas, ça m'a fait réfléchir sur des choses auxquelles j'adhère, en tout cas, quand Aude dit qu'elle aime le salon quand il n'est pas trop surchargé des affaires qui traînent, quand Crip dit qu'elle trouve que c'est important que tout le monde prenne ses responsabilités au sein de la cohabitation, ou encore quand Nicole dit que c'est vraiment important et que ça sauve en fait la cohabitation quand elle sait qu'elle peut se retirer dans son propre espace. Voilà, donc y a beaucoup de ces éléments. Je m'y retrouve aussi quand on parle de faire son logement à son image. Mais ça ne suffit pas. Le témoignage de Whistlin nous montre que tout ceci n'est possible seulement quand on se sent légitime à habiter quelque part. Que ce cocon, que cette représentation de notre habitat comme refuge, comme cocon, y vole en éclats dès que les contraintes extérieures particulières sont présentes. Et moi, ça m'a fait écho pour... j'ai essayé de chercher, on parle souvent, comme l'a dit Gab, sauf Whistlin, tous ces entretiens, ils montrent surtout quand est-ce qu'on se sent bien, mais il y a aussi des moments où on se sent mal, et c'est souvent les moments où on n'a pas envie d'en parler. D'ailleurs, il y a plusieurs des personnes à qui j'avais demandé qui m'ont dit « Ah bah non, en ce moment, je me sens pas bien là où j'habite, du coup, je peux pas témoigner. » Et donc, pour ma part, moi, j'ai détesté habiter un petit studio pendant mes études, et ça tenait pas tellement à ce qu'il était mal chauffé ou que la salle d'eau était super exiguë. C'est sûr, ça n'aidait pas, mais c'était surtout que c'était une période de ma vie. Donc quand, pareil, Gab parlait de vie extérieure, ça tient vraiment à ce que ma vie... C'était une période de ma vie où je me sentais très seule. Alors du coup, le fait d'être dans mon studio, ça me replongeait encore plus dans ma solitude. Je passais des moments toute seule à me dire « Ouh là là, est-ce qu'il y a vraiment... J'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne frapper à la porte et qu'on discute et qu'on fasse des trucs sympas. » Et juste, il n'y avait personne. Alors du coup, c'était pas pour moi vraiment un moment assez, assez désagréable. Et voilà, donc quand bien même toutes les conditions matérielles sont réunies, le sentiment de refuge peut disparaître aussi à la faveur, évidemment, d'une relation conjugale ou d'une relation entre cohabitantes qui se détériore. On pense évidemment, mais ce n'est pas la seule condition, aux femmes qui subissent des violences chez elles. Et voilà, et pour finir, et pour faire un petit clin d'œil, même si ce n'est pas forcément très drôle, en ces temps aussi d'épidémie de coronavirus, on peut aussi réévaluer notre refuge. On trouve que c'est un refuge parce qu'on a une vie extérieure dense, mais est-ce que si notre lieu d'habitation, ce qui nous semblerait si confortable, ce lieu d'habitation cocon, si en fait on était assigné à résidence et qu'on n'avait pas le droit d'en sortir, ou alors très peu, sous certaines conditions. Et ce qui nous fait penser à quand nous n'avons plus de liberté de sortir de ce cocon, est-ce que celui-ci prend une autre teinte ?
Oh. You don't ride out them lies, you just quote them. Get offline, plug into this modem. No, you can't outvote them. The rules are still golden. On the jewels we holdin', if we guard our scrotum. If you press your ear to the turf that is stolen, you can hear the sound of limitations exploding. Please, sir, may we have another portion with children of the beast that dodge the abortion. Neck plates firm between the floor and the portion. We'll shut your shit down, don't call it extortion. Caution, we're coming for your head. So call the feds and get files and shred. Every textbook read said bring you the bread. But guess what, we got you instead.
We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. We got the guillotine. We got the guillotine. You better run. We got the guillotine. We got the
d'écouter The Guillotine, le de qui déjà ?
The Coup, comme le coup d'État. On a eu envie de mettre cette chanson parce que là, ces derniers temps, c'était un peu, on s'en prenait plein la tête là, avec les Césars et Polanski nominés, enfin, qui a eu la palme du meilleur réalisateur, le 49-3. On s'est fait tabasser aussi à la dernière marche de nuit à la fin. Et puis ces derniers mois, c'était pas cool non plus. Hein.
Voilà, du coup, c'était une façon d'exprimer un peu la colère et de dire que. Bah, The Guillotine, enfin, tout est dans le titre. Mais du coup, pour passer un peu à la suite, là, on va écouter un entretien que tu as fait, Fabia, avec donc Sido, du clip. Alors, clip, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais oui, on va quand même, découvrir ce que c'est.
C'est un acronyme mystérieux dont on ne sait pas ce que c'est, mais je suis allée voir Sido, qui participe à un projet là, dont vous allez apprendre ce que c'est, le clip. Donc, merci à elle d'avoir accepté et puis d'avoir répondu à mes questions. Le clip, donc, c'est un projet qui propose un autre abord à l'habitat et à la propriété immobilière capitaliste. Donc, le premier principe, c'est il se base sur vraiment la valorisation de la propriété d'usage. Vous verrez, Sido vous expliquera, mais pour moi, en simple, c'est le principe zapatiste transformé. Donc, le principe zapatiste de la terre appartient à celui ou celle qui la travaille. Bah, là, c'est le logement appartient à celui ou celle qui l'utilise, qui y habite. Sans être propriétaire du coup individuel et sans risque d'expulsion et de précarité liée au squat. Et le deuxième principe, c'est de sortir des lieux de la marchandisation capitaliste et de la spéculation. Et donc voilà, on vous laisse écouter le premier entretien qui explique le principe de propriété d'usage et l'histoire d'où vient ce projet.
Alors le clip, ça s'inspire en fait d'une initiative qui est allemande au départ, d'un groupe qui s'appelle le Miethauser Syndicat. Voilà. Et donc le principe, c'est d'essayer de. Enfin, le principe, c'était de trouver une alternative au fait d'être forcément propriétaire à titre individuel ou en SCI, mais ça revient même avec des parts, etc. D'être propriétaire de son logement pour pouvoir vraiment l'habiter de façon pérenne et puis l'occuper comme on l'entend, quoi. Et donc. En s'inspirant de cet exemple allemand, on a essayé de mettre au point une structure juridique qui permettait de créer ce qu'on a appelé, enfin ce que plusieurs personnes appellent de la propriété d'usage. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire physique. Personne n'est propriétaire physiquement, donc personne ne possède la propriété financière des bâtiments. Mais il n'y a pas en fait donc en fait les habitants sont locataires en fait payent un loyer qui permet de notamment de rembourser les emprunts quand il y a eu emprunt ou de payer des charges quand il n'y a pas d'emprunt si par bonheur on n'a pas eu besoin d'emprunt et de participer à la vie collective quand il y a à la vie collective des bâtiments et donc les habitants Le principe de la propriété d'usage, c'est de dire que les habitants, sans être propriétaires financiers, ont la propriété morale, en quelque sorte, du bâtiment, des bâtiments qu'ils occupent, et que donc tant qu'ils sont là et qu'ils sont locataires, c'est à eux de décider la façon dont ils s'organisent, ce qu'ils font sur le bâtiment, comment ils l'occupent, etc. Et ça permet aussi de se dire qu'une fois qu'on part, on n'a pas à continuer à intervenir sur un endroit qu'on n'occupe plus, en fait.
Comme les propriétaires.
Okay. Mais comme dans des projets même alternatifs, souvent, les gens qui ont mis de l'argent, au moment où ils partent, veulent soit récupérer leur argent, tout militant qu'ils soient, etc. Ce qui s'entend aussi parce qu'en fait, ils ont besoin de cet argent pour vivre, etc. Donc, soit récupérer cet argent, ce qui met toujours les projets un peu en péril, parce qu'il faut immédiatement trouver de l'argent, souvent des sommes qui sont pas faciles à trouver. Soit ils finissent par revendre, en fait, à d'autres gens, mais qui, du coup, sont pas forcément dans la dynamique du projet initial. Et puis, il y en a d'autres qui ne récupèrent pas tout de suite leur argent, mais qui pensent, enfin, qui continuent à estimer qu'ils ont donc un pouvoir, en fait, sur le projet, parce qu'ils y ont mis de l'argent. Mmh. Qu'ils n'ont pas récupéré, et donc ils ont une sorte de pouvoir moral, enfin de, ils ont en tout cas leur mot à dire, en fait, sur la façon dont se met en place le projet. Donc nous, on voulait un petit peu échapper à ces choses-là.
T'es au courant un peu de comment c'est venu, la propriété d'usage et de démarchant?
Ouais, tout à fait, c'est hyper intéressant. En fait, en Allemagne, il y a eu, en fait, c'est venu d'un squat à Freiburg. Au moment de la guerre des squats en Allemagne, ce qu'on a appelé la guerre des squats, où donc le gouvernement a fait une offensive très sévère sur les squats allemands, en sommant les squats soit de partir, soit de racheter les lieux. Mais bon, c'était vraiment à coup d'hélicoptère, enfin c'était la guerre, quoi. Et enfin, il fallait sortir. Et donc à Freiburg, ils se sont dit qu'ils voulaient ni racheter, enfin ils voulaient pas être propriétaires plus exactement. Mais ils ne voulaient pas non plus partir. Alors, dans un premier temps, ils ont été obligés de racheter parce qu'il n'y avait pas du tout de temps de réflexion. Et ça correspond... Alors, oui, ça correspond. Je ne sais pas après quelle est la part de légende autour du truc, mais au moment où il y a quelqu'un qui arrive au squat de Freiburg ou qui revient plus exactement, qui a fait une thèse sur l'immobilier en Angleterre. Enfin, sur justement les mécanismes de propriété, etc. Et donc, qui a réfléchi un peu à ces questions. Ils ont réfléchi à plusieurs autour de ces questions et ils sont arrivés à ce montage, en fait, juridique, qui n'est pas exactement le même chez eux, parce que les structures juridiques ne sont pas exactement les mêmes, mais qui est vraiment très inspiré. Enfin, nous, on s'est vraiment beaucoup inspiré du leur. Et donc, ils se sont rachetés ils se sont d'abord rachetés classiquement, puis ils ont transformé leur structure juridique pour avoir cette espèce de montage. Et ensuite, ça a essaimé dans Freiburg, dans les autres squats de Freiburg. Donc, ou des lieux déjà rachetés, ou des squats qui se sont rachetés, ou des nouveaux lieux. Et puis après, on voit dans la carte de l'Allemagne, c'est très drôle parce que quand ils racontent, on voit vraiment qu'en fait, c'est tous les gens de Freiburg, enfin tous les gens des collectifs qui ont commencé à partir, je ne sais pas, à Berlin, à Marbourg, etc. Et qui, en arrivant, parlent de ça. Et donc, en fait, les lieux se sont ouverts au fur et à mesure que les gens, finalement, partaient en Allemagne à droite à gauche. Et puis ça a fini par prendre énormément. Après, je pense que la différence peut-être avec nous, pour l'instant, en tout cas, en France, ouais, pardon, c'est que eux, ils ont quasiment que des projets urbains. Ils ont une très très grande majorité de projets urbains.
Et donc en France, c'est pas le cas.
En France, pour l'instant, Marseille est en zone urbaine, mais les deux autres projets sont en zone rurale. Et je pense que la plupart des projets qui rejoignent sont quand même en zone rurale. Je pense qu'on... Enfin, peut-être pas tous. Non, il y en a un qui est à Metz, par exemple. Mais c'est soit des très petites villes, soit... Mais ça, je pense que c'est lié à la conjoncture. Enfin, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'une part, quand même, cette histoire de réchauffement climatique, de décroissance, etc., qui touche plus les gens maintenant. Et beaucoup de projets collectifs ont envie d'essayer de travailler sur l'autonomie, etc. Et après, il y a aussi la question qu'en France, c'est devenu tellement cher, en fait... Que accéder à la propriété en ville, c'est hors de prix, quoi. Donc pour l'instant, il n'y a pas la puissance, en fait, financière qui permet vraiment d'acquérir ces projets.
Vous êtes toujours sur Langue de Fronde, 106.3 FM.
Et donc là, on a entendu le premier entretien qui expliquait le principe de la propriété d'usage et l'histoire de ce projet, donc d'où il venait. Et la deuxième partie, comme on a dû faire un montage, il fallait un peu expliquer la transition. Donc la deuxième partie va parler de la lutte contre la marchandisation des lieux. Et la spéculation immobilière, donc comment le dispositif juridique a été monté et ce dispositif empêche de revendre les bâtiments et les sort, en fait, sort des lieux du marché immobilier capitaliste. Et aussi, je vais poser des questions sur l'argent, comment les lieux sont achetés, financés. Et donc comment s'acte la séparation entre propriété d'usage et propriété financière. Il y a aussi, on parlera aussi de solidarité entre les projets du CLIP et de comment en Allemagne, ils et elles ont mis une médiation pour essayer de faire tenir des lieux, parce que leur principal problème, c'est plus l'argent, mais les problèmes humains. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a 3 projets établis et 3 en cours d'établissement. En Allemagne, il y a 150 projets. Donc, vous entendrez des bruits de toc-toc à la porte, parce qu'il y avait des enfants qui voulaient entrer dans la salle où on se tenait pendant l'entretien. Donc, c'est pas chez vous qu'il y a le toc-toc. Et pendant l'enregistrement aussi, quand Sido parle d'eux, j'ai dû couper un peu pour le montage, et bah, c'est fait référence à ce qui se passe en Allemagne. Du coup, notamment pendant la médiation.
Donc, la structure juridique, c'est des associations qui achètent les bâtiments. Et dans cette association, il n'y a que deux membres qui font partie de l'association, c'est-à-dire c'est l'association des usagers et le CLIP, qui est donc une association qui regroupe tous les lieux qui sont construits sous cette forme. C'est un petit peu complexe, mais voilà. Et en fait, le CLIP n'a pas du tout de droit de regard sur la façon dont les gens s'organisent, dont les lieux s'organisent, etc. Il est vraiment juste là pour garantir que les lieux soient jamais revendus. Et l'idée, en fait, sous-jacente de ça, ça vient de l'idée qu'il y a beaucoup de lieux qui se reposent juste sur l'idée que le collectif qui vient créer un projet au départ est assez confiant, mais que dès qu'il commence à y avoir des problèmes humains, comme chacun a mis de l'argent, etc., bah, le projet se délite parce que les gens partent, les gens s'embrouillent pour différentes raisons, ou changent de vie. Et donc, en partant, le projet s'écroule et souvent, le bâtiment est revendu. Et donc là, l'idée à chaque fois, c'est de se dire, bah, en fait, le bâtiment, il va rester. Et les collectifs, ils vont peut-être changer dedans et les gens peut-être vont se fâcher entre eux ou vont changer de vie, etc. Mais ce ne sera pas un problème. En fait, les collectifs pourront évoluer et bouger librement sans que ça mette en péril le fait d'avoir acheté et donc d'avoir retiré ses biens du marché immobilier.
D'accord. Voilà. Donc c'est une sorte de... On retire, en fait
On immobilise, en fait, un bâtiment. Et ça s'appelle une main morte, en fait, juridiquement, ce qui est vraiment la chose que le capitalisme déteste le plus. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose et puis ensuite, on ne peut pas lui enlever sa valeur, mais ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte qu'on le retire du marché et il ne revient jamais sur le marché. Et donc, en fait, il reste comme ça, éternellement, dans une espèce de
mais jamais tant que le CLIP.
Voilà, jamais tant que le CLIP est derrière ça. Voilà.
Mais donc, le CLIP, c'est la structure qui vient empêcher que ce bâtiment, ce lieu soit revendu, donc le retire. Je sais pas, de la marchandisation, quoi.
Voilà, de la spéculation.
Mais comment ça marche, du coup? Il y a cette association d'habitantes.
Voilà.
Et le CLIP qui...
Qui gère, en fait, la propriété. Ouais, okay. La propriété du lieu. Mais par contre, toute la propriété morale du lieu, enfin, la propriété d'usage...
L'usage, voilà.
N'est que pour les habitantes.
Ok. Le CLIP, il est juste
le
là.
CLIP, pour voilà, le CLIP n'est pas du tout, ne va pas du tout regarder comment tu t'organises, si tu décides, je sais pas, par exemple, il peut y avoir des lieux qui... j'explique juste parce que je sais qu'il y a d'autres formes de propriété d'usage qui n'ont pas cette vision politique là. D'accord. Mais nous, notre vision politique, c'était de dire que dans la société dans laquelle on vit, on n'a pas le droit, en fait, contrairement à ce qu'on nous fait croire, on n'a pas le choix de la façon dont on vit. On vit tous un peu de la même façon, donc on habite de la même façon. Dès qu'on veut habiter différemment, c'est très compliqué. On est soumis à tout un tas de contraintes qui font que c'est compliqué de vivre autrement. Donc on vit grosso modo dans des unités autour du foyer familial, voilà, etc. Et nous, notre idée, c'était de dire, en fait, on veut que les gens aient le choix. Donc c'est pas du tout l'idée de reproduire un modèle alternatif, mais qui serait le même pour tous. C'est de dire, en fait, il n'y a pas un bon modèle, en fait. Il y a des gens, ils vont vouloir vivre en appartement, puis ils vont prendre des décisions collectives sur des choses basiques. Il y a des gens, ils vont vivre tous ensemble, et puis ils prennent toutes les décisions ensemble. Il y a des gens, je sais pas, il y a des gens, ils vont être non mixtes, il y a des gens, ils vont être complètement mixtes, il y a des gens, ce sera que des familles, il y a des gens, enfin voilà. C'est en fait chacun.
Les gens font vraiment ce qu'ils veulent.
Voilà, les gens s'organisent en fait. Voilà, c'est ça. Okay. L'organisation, elle vient d'eux, c'est à eux de décider, c'est eux qui vivent dedans et c'est donc à eux de décider ensemble la façon dont ils habitent. Et voilà, il n'y a aucun réseau, etc., qui doit intervenir là-dedans.
Mais est-ce que du coup, ça me fait penser à des trucs d'autogestion, etc. Est-ce que finalement, appartenir, enfin, avoir un projet dans le cadre du clip te force au sein de ton bâtiment à fonctionner en autogestion ou non? Enfin, c'est encore les habitants et les habitantes qui vont décider. Ah tiens, c'est une telle qui va décider. Non, c'est.
En fait, en réalité, ils pourraient décider ça. Après, c'est vrai que nous, on fait attention à ce qu'il y ait quand même Enfin, quand on accepte les projets au sein du clip, il y a plutôt l'idée qu'il doit y avoir de l'autogestion.
Ou pas,
voilà, donc, le clip accepte d'intégrer des projets ou non. Et il y a quand même cette idée d'autogestion parce que sinon, ce qui se passe souvent, c'est que si on s'en remet à une personne, souvent les projets sont plus fragiles. Okay. Parce qu'en fait, il arrive quelque chose à cette personne, x, y raison, ça rend les projets trop fragiles. En fait, il faut que l'ensemble des gens soient motivés, en fait, pour intégrer. Enfin, c'est-à-dire que c'est le clip qui choisit, mais c'est aussi les groupes qui choisissent d'intégrer le clip. Donc il faut vraiment que les groupes, dans leur écrasante majorité, soit vraiment motivée. Donc nous, on a besoin quand même que les groupes soient engagés dans cette idée de renoncer à la propriété, qui est en fait quand même quelque chose d'assez compliqué, okay. On s'en rend compte. Mmh. En tout cas, en France, c'est vraiment pas du tout évident. Il y a beaucoup de gens qui sont séduits par l'idée, parce qu'ils sont, parce qu'ils sont de gauche, parce qu'ils sont... Et puis, arrivé au moment de sauter le pas, il y a plein de gens qui vont dire « Ah oui, mais tu comprends, il faut quand même pour mes enfants, pour machin, pour truc... » et qui vont en fait faire marche arrière, quoi.
Ok, et du coup en fait pour moi là, ça pose la question de l'argent en fait. Mais ouais. D'où vient l'argent? C'est-à-dire, alors, apparemment ouais. Les habitants n'achètent pas le lieu, mais du coup d'où vient l'argent d'achat du lieu?
Les habitants peuvent prêter de l'argent à l'association de propriétaires, mais ce sera décorrélé du fait qu'ils habitent ou qu'ils habitent pas, et le jour où ils veulent partir, ils récupèrent pas, enfin ils ont de toute façon un échéancier de remboursement.
Donc leur départ du lieu n'a rien à voir.
Voilà, c'est ça. Le lieu continue à. Voilà.
Leur prêt est fait indépendamment.
Voilà, exactement.
De quand ils habitent.
Exactement.
Pas,
en fait. Voilà. Et du coup, ils sont locataires au même titre que les autres. C'est-à-dire qu'ils récupèrent leur emprunt d'une part, et par ailleurs, ils peuvent repayer un loyer. Après, en fait, par exemple, si on, en fait, nous, on a des cas différents. C'est-à-dire que nous, moi, le projet dont je fais partie, par exemple, on a acheté sans emprunt du tout. On a acheté que avec des emprunts de particuliers. Dont certains,
c'était de la banque.
Ouais, sans emprunt de la banque. Dont certains sont habitants et d'autres pas.
Okay. Et donc si je reformule, il y a des prêts de particuliers.
Ouais, tu dis. C'est ça.
Et peut-être pas des prêts de banque.
Voilà, c'est ça.
Et il y avait un truc qui m'intéressait aussi, c'était cette histoire de solidarité possible parce que
oui, exactement.
J'ai essayé d'évoquer ça à un moment, mais. Est-ce que du coup à un moment il y a une espèce de banque interne au clip qui
alors il n'y a pas de banque
qui aide des projets à se mettre en place, enfin comment ça se passe cette...
ouais.
Donc il y a une solidarité entre les particuliers qui font des prêts, ouais, à taux zéro ou quoi que ce soit, ouais. Ça c'est clair. Est-ce qu'il y a d'autres types de solidarité au particulier?
Oui, il y a même une solidarité qui est obligatoire. Alors ça passe pas par la structure clip, c'est-à-dire que nous on fait le choix qu'il n'y ait aucune centralisation de l'argent. De la même manière que tout le monde choisit son habitat, tout le monde doit choisir de qui il est solidaire. En fait, il y a des lieux qui ont plus ou moins d'affinité, etc. Okay. Par contre, il y a obligation pour tous les lieux de mettre de côté une sorte de cagnotte de solidarité, donc de l'argent de côté. Alors, à l'échelle de ce que le lieu peut faire, ça va être moins tant qu'il rembourse des emprunts, ça va être un petit peu plus quand il n'a plus d'emprunts. Il ne faut pas non plus que ça impacte trop les loyers pour que les gens puissent vivre.
Mais c'est les lieux qui décident d'eux-mêmes.
Voilà, exactement.
Comment ça se passe?
Les lieux choisissent ça.
Vous êtes là depuis longtemps, là vous pourriez augmenter un peu.
Non, ça c'est eux qui choisissent.
Il n'y a pas de ça.
Okay. Non, mais par contre, c'est obligatoire d'en faire une. Et après, c'est les lieux qui choisissent à qui. Ils versent cet argent, enfin, soit le donne, soit le prête, ça c'est à eux de voir. Mais l'idée c'est vraiment que en fait, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de projets et donc c'est de plus en plus facile de lever de l'argent pour acheter des lieux. C'est vraiment ça l'idée, quoi. L'idée c'est que tout le monde ne vive pas tout le temps la même galère, qu'il y a un peu
je sais pas, qu'on arrive à s'organiser suffisamment pour que des lieux puissent se monter sans être tout le temps tributaire de trouver des gens riches, des héritiers, des voilà, ce qui est un petit peu
plein
de particuliers. Et après, pour cette histoire de problématique humaine, eux, ils forment des médiateurs. Et alors c'est pareil, ils interviennent jamais d'eux-mêmes. Ils interviennent que à l'appel des projets. C'est au projet de décider d'appeler un médiateur. Et donc les médiateurs viennent intervenir dans les lieux quand on leur demande. Ils essayent de faire de la médiation dans les groupes. Et puis ils le disent eux-mêmes, des fois ça marche pas, des fois c'est impossible, c'est-à-dire que le groupe est complètement divisé en deux, et du coup là ils essayent de trouver d'autres solutions. Donc c'est arrivé par exemple que les médiateurs prennent la moitié du groupe et remontent un autre projet dans la ville.
D'accord.
Les aident à remonter un autre projet, ou ça leur est arrivé d'intervertir deux moitiés de groupe de deux projets dans la même ville par exemple.
Vous êtes toujours sur FPP 106.3, donc on vient de finir la deuxième partie de l'entretien avec Sido du clip. Et rapidement, moi j'avais envie de dire pourquoi ça m'avait super intéressé ce projet. Le premier, c'était pour les deux principes que je trouve super intéressants, donc le principe de propriété d'usage et le fait de sortir des lieux du marché immobilier capitaliste. Donc c'était une lutte concrète contre la marchandisation et la spéculation immobilière. Une des autres raisons, c'était aussi que dans ce projet, il y avait aussi l'idée de choix très importante. Donc à la fois, le choix est présent partout et c'est assez libertaire, concret, je trouve, et pas seulement déclaratif, comme on a beaucoup en France. Donc il y a le choix dans la demande de médiation, par exemple, on vient de l'entendre en Allemagne, dans à qui on donne de l'argent dans les projets, donc la solidarité financière, et dans justement comment on organise notre habitat. Et ça, je trouve ça vraiment super chouette de pouvoir permettre une hétérogénéité, des manières d'habiter, des manières de vivre ensemble. Parce que on l'a peut-être pas bien souligné, mais c'est quand même, le clip, c'est pour des personnes qui veulent vivre en collectif, ce qui peut être plein de petites unités au sein d'un immeuble, mais qui doivent quand même se mettre d'accord à un moment sur qu'est-ce qu'on fait dans cet immeuble, comment on règle plein de problèmes, en fait, un peu comme les copropriétés, sauf que ce ne sont pas des copropriétés, en tout cas financières. Et puis des projets plus divers, plus variés.
Est-ce que tu aurais un exemple à nous donner, toi ? J'ai l'impression que tu en as croisé sur ta route, notamment en Allemagne.
Oui, quand je suis allé en Allemagne, j'ai visité pas mal de projets à Freiburg et aussi quelques-uns à Berlin. Et celui qui m'a fait vraiment rêver à Berlin, c'est un endroit assez grand où vivaient vraiment beaucoup de personnes, où il y avait une cuisine collective, donc il y avait vraiment plein de lieux collectifs où partager des choses à faire, comme la cuisine, il y avait une salle de musique, une salle d'art, une salle de sport, des choses comme ça. Et puis aussi, dans ces espaces-là, des espaces semi-privés où les personnes pouvaient inviter des gens sans justement qu'il y ait tout le monde autour. Et j'étais, donc il y avait un jardin, enfin, j'étais vraiment super impressionné par la possibilité de ce lieu et des agencements qu'on pouvait trouver dans ce lieu, autant être seul dans sa chambre que être au milieu de plein de gens et que ça posait pas un problème, quoi.
Et du coup, en France, il y a trois projets qui sont en train de, enfin, qui sont déjà dans le clip.
Oui.
Et si on veut en savoir un peu plus sur le clip, comment on fait ?
Eh bah, on connaît des gens. Pour l'instant, il y a un site où il y a peu de choses, mais il y a déjà, vous pourrez lire ce que c'est. C'est clip.ouvaton.org. Et après, j'imagine que si vous voulez vous mettre en contact avec EL, vous nous envoyez un mail. Déjà, vous regardez sur le site s'il y a un contact. Sinon, vous nous envoyez un mail et puis on leur enverra.
Merci Fabien, en tout cas, d'avoir pu obtenir cet entretien avec Sido, et merci Sido si tu nous écoutes. Là, on s'approche de la fin de l'émission. Vous écoutez en toile de fond Nina Simone, qu'on aime beaucoup à Langue de Fronde. Et là, on va écouter la chronique de ce mois-ci. J'ai des corps à vous dire. J'en profite pour remercier Clémence qui a fait le montage de cette chronique. Et le thème, c'était de parler de nos fenêtres, de ce qu'on y aperçoit et de ce que ça raconte sur nos environnements familiers, sur comment aussi ça nous situe, le fait de parler ce qu'on voit à nos fenêtres, et ce que ça raconte sur ce à quoi on prête attention, parce qu'on ne prête pas toute attention aux mêmes choses. Voilà, bonne écoute et puis à très vite.
Salut, à bientôt.
Salut.
Des fesses,
ma langue,
une aisselle,
un beauté,
arcade sourcilière,
la cheville,
rides,
apnée,
squelette,
la glande de Bartholin,
la glotte
clitoris,
un foie,
la voûte plantaire,
doigt,
mamelon,
un cœur,
menton.
You are peaceful.
le plancher pelvien,
ma langue,
un poil,
le muscle bulbeux,
la voix,
mon nez, ma rate, mon foie, ma chèque,
mon plexus,
cuir chevelu,
mes lèvres,
mes ganglions lymphatiques cervicaux,
mes coudes,
sillon interfécier,
mes hanches,
un pouce,
le sternum,
sinus,
mes reins,
colon, rectum, mon anus
et mon nombril.
J'ai des corps à vous dire.
Chronique sonore pour parler de nos corps avec les autres et pour nous-mêmes.
De ma fenêtre, j'ai des corps à vous dire. Deuxième saison, janvier 2020.
Au mois d'août dernier, l'église bardée d'échafaudages avait des airs d'Empire State Building au coucher du soleil. Depuis, retour à la normale, l'édifice a retrouvé son clocher et sonne à heure fixe. En contrebas, j'aperçois la cour de la voisine du rez-de-chaussée qui ressemble à une jungle abandonnée. Les mois passent et peu à peu, le lierre dévore le béton. Je me demande jusqu'où les lianes prendront-elles le pouvoir. On aperçoit aussi le jardin qui borde la maison de retraite. Vide la plupart du temps, il ne vit qu'au rythme des saisons qui font jaunir le gazon et tomber les feuilles du marronnier. De temps en temps, un chat s'aventure prudemment sur ce territoire et se retrouve bien souvent nez à nez avec le gros matou blanc et roux dont c'est visiblement la chasse gardée. S'ensuivent alors des duels de regards puis des courses-poursuites que j'aime interrompre en sifflant à la fenêtre. Les deux fauves se figent, surpris dans leur bagarre et pris en faute sous le regard d'une spectatrice.
Boulangerie, PMU, salle de sport, Auchan, laverie, tabac, parking vélo, le paysage de la rue Stalingrad. À ma fenêtre défilent les urbains. Dans leurs sillons, ils, elles égarent des bouts de vie qui font sourire mes oreilles curieuses. Parfois, quand je sors ma tête pour prendre la température, j'en surprends un. Quand je fume, un bonjour. Ouverte, ma fenêtre est un petit théâtre du quotidien. Pourtant, la plupart du temps, elle est fermée et personne ne sait que je suis là. Elle m'isole, me sécurise, clôt mon espace de vie, mon intimité. Est-ce le reflet de mon besoin d'intériorité ?
Par la fenêtre, je vois Vénus briller. Des paillettes blanches sur le sol et dans le ciel s'éloigner. Des stalactites de glace à la veille de se liquéfier. Je sens la vie hiverner. Je sens l'envie d'hiberner. Dans le champ anciennement foré, des arbres paisibles se dressent. Et zébrés par leurs ombres, une fragile couverture blanche s'étend sur leurs racines entremêlées. Elle me renvoie le soleil du matin. D'énormes corbeaux noirs naviguent le ciel. Quelques écureuils s'envolent. Le jour, la nuit, je vois le silence. À toi l'espoir qui m'a amené ici. J'espère que tu aimes la vue de ta nouvelle vie éphémère. Tu as peut-être trouvé ta tribu dans cette commune ou au moins un pied à terre en Gaspésie.
Par ma fenêtre, je vois les paysages défiler depuis les fenêtres de ma Kangoo Doudou que j'aime beaucoup. Ce sont les fenêtres de ma voiture et les longues heures de route que je passe dedans, que j'aime. Les seuls espaces où je suis totalement chez moi, avec tout mon bazar à l'arrière, avec ce qui me rassure surtout.
Ma fenêtre, c'est celle de la cuisine. Ce n'est pas celle de la chambre, ni celle du salon. C'est celle de la cuisine parce que c'est celle que je regarde le plus. Ouverte, elle a été le lieu de pas mal d'arrivées et de départs, de bonjour et de au revoir, donc. Dans mon futur chez moi, j'aimerais voir le ciel à toutes mes fenêtres. J'aimerais que des plantes grandissent et s'épanouissent derrière elles. J'aimerais aussi qu'elles me protègent, ces fenêtres, des bruits du dehors. Et puis qu'elles laissent entrer la chaleur du soleil en inondant les pièces de lumière au début du printemps ou à la fin de l'été. Trouver sa fenêtre, son angle de vue. Trouver son chez-soi dans la jungle francilienne. Allez, c'est parti, je me lance.
I had that much strength, but I'm glad to see what happened.